Issus de tout horizon et de toute tradition, ces hommes et ces femmes en quête de sagesse, ou tout simplement inspirés, partagent avec nous leur parcours de vie et nous donnent des pistes pour grandir en humanité. Je suis partie à la rencontre de ces chercheurs d'hier et d'aujourd'hui. Vous écoutez Envie de Sagesse. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Stéphanie Desbonnets. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Alors, nous nous sommes rencontrés un petit peu au hasard des réseaux sociaux. Ça fait un moment que nous sommes en contact. Et voilà, l'idée a germé comme ça, d'une rencontre virtuelle. Et aujourd'hui, je suis en face de toi.
C'est ça. C'est Julien encore qui nous a mis en lien finalement. Parce que, je ne sais plus, je t'ai vu réagir, je crois, sur un post à lui.
Oui.
Et j'ai vu que tu étais d'Agen. Et parce qu'effectivement, dans les réseaux sociaux, on se perd un peu. On ne connaît pas les gens.
Et oui, j'ai interviewé Julien d'ailleurs pour cette émission. Et puis j'avais dit que qu'on allait se vouvoyer, mais voilà, comme quoi c'est plus fort que moi, et bien on va continuer comme ça.
Bah oui, ça me va, c'est pas de souci.
Alors, qui es-tu Stéphanie? Je vais te laisser te présenter aux auditeurs.
Ok. Alors moi j'aime à dire que je suis une âme incarnée dans ce corps féminin depuis 48 ans maintenant, bientôt 49. Et que j'ai eu la particularité à 44 ans de découvrir mon fonctionnement, qu'on appelle surdoué, surefficient, multipotentiel ou plus joliment zèbre. Ce mot qui a été enregistré au Larousse cette année, appellation par Jeanne Siofachin, psychologue spécialisée dans ce domaine-là.
Alors après cette petite présentation vraiment sommaire, j'aimerais bien que tu te présentes un peu à la manière de mon ami Patrick Figeac. Il me disait qu'il proposait souvent à ses auditeurs de se présenter à travers un souvenir. Alors je vais te proposer cet exercice. Est-ce que tu pourrais te présenter à travers un souvenir, comme une histoire qui te caractérise ?
Ouais, bon alors il y a plein d'images, tu sais moi, avec mon cerveau qui part dans tous les sens. Si tu me parles d'un souvenir, ben là j'en ai à peu près 15 qui arrivent et puis ces 15-là donnent naissance à 15 autres souvenirs, donc il va falloir que je rassemble un peu tout ça. Je crois que si on reste sur le fil de qui je suis et pourquoi je suis là, le souvenir le plus important qui va revenir, c'est lorsque je travaillais au Club Med, j'étais une gentille organisatrice, on appelait ça les Géo.
Et oui.
Je m'occupais des enfants déjà, parce que j'ai vraiment un lien très fort avec les enfants. Et du coup, avant ça, je crois qu'il y a eu une Stéphanie avant, une Stéphanie après, le Club Med. Et je me revois, je faisais une saison au Grand Hôtel de Super Bagnères pendant l'été. Je m'occupais des ados, les 14-18. Et les chambres des Géos étaient dans les greniers de ce très bel hôtel. Et donc, on prenait l'ascenseur pour descendre dans le hall le matin. Et dans cet ascenseur, il y avait un miroir. Et je me forçais à regarder le miroir et à mettre ma bouche en position sourire, et en me disant, elle est ok, ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien. Il faut dire qu'avant, j'étais une petite fille, voire une adolescente assez introvertie, avec beaucoup de colère en moi. Ma vie a fait aussi que j'ai beaucoup de colère qui est venue m'habiter, et dont je ne m'occupais pas du tout. Et donc voilà, ben, ce souvenir, c'est ça. Je me revois très précisément dans cet ascenseur le matin en me disant « ça se passe bien, ça se passe bien, ça se passe bien » et à forcer ma bouche à se mettre en position de sourire.
Ah ouais, c'est fort ce souvenir parce que c'est vraiment... c'est vrai que ça illustre, j'allais dire peut-être toi à ce moment-là, mais tellement nous, chacun de nous, souvent, allez, tout va bien, on sourit, et puis voilà, tout le déni qu'il y a derrière ce faux sourire, finalement.
C'est ça, oui.
Et alors, en 2016, donc, il y a eu un autre événement qui va te faire prendre un virage, comme tu l'as dit tout à l'heure, à 360 degrés. Quel est cet événement ?
Alors, le principal événement, c'est la découverte du fonctionnement de mon fils qui, à ce moment-là, a 4 ans et demi. Alors, il avait déjà eu un premier bilan à 2 ans et demi parce qu'on avait été interpellé par la crèche. Donc, on est à Jeun. Et la crèche m'appelle en me disant, écoutez, il faudrait qu'on vous parle un petit peu de votre petit garçon. Parce qu'il présente un fonctionnement d'un petit garçon d'à peu près un an de plus que son âge. Ok. Et à ce moment-là, il y a une psychologue à la crèche et on me dit que ça serait peut-être bien de rencontrer la psychologue pour voir avec elle et faire un état des lieux. On fait effectivement cet état des lieux qui nous dirige vers un bilan qui s'appelle le WIPSI pour les petits, Et donc, voilà, on n'y connaît rien, donc on y va, on fait confiance et on se déleste d'à peu près 200-250 euros, si je me souviens bien, pour faire passer ce bilan à notre petit garçon. Et puis, la psychologue, aussi charmante soit-elle, me dit votre petit garçon est donc au potentiel. Et je me souviens très bien parce qu'elle fait une remarque, elle me dit il a un humour, cet enfant. Et moi, dans ma tête, je me dis, oui, enfin bon, c'est un enfant de 2 ans et demi. Enfin, ça fait rire, quoi, les enfants de 2 ans et demi. C'est, voilà, c'est très spontané. Bon, donc je repars avec ça. Et puis, on n'en fait rien, en fait. Et mon petit garçon évolue avec... il a une grande sœur, qui est quand même une enfant aussi, avec des émotions bien trempées, assez colérique. Et je repars avec mon petit garçon de 2 ans et demi et avec ses émotions exacerbées et qui se marquent de plus en plus. Et à 4 ans et demi, effectivement, le nouvel an entre 2015 et 2016, il se passe quelque chose d'assez fort, 2016-2017, enfin peu importe. Et un événement qui fait que là, à ce moment-là, moi, je suis accompagnée par un kiné ici sur Agen qui a sa fille qui est au potentiel et donc qui connaît bien le sujet. Il me dit, écoute Stéphanie, avec ce que tu me racontes là, tu ne peux pas laisser passer ça. Maintenant, il faut vraiment que tu t'occupes de ton fils. Donc, prendre contact avec la FEP ou l'AMPEP, qui sont donc 2 associations dédiées au potentiel, et que tu t'occupes vraiment de ton petit garçon, sinon ça risque de mal se passer. Et du coup, je fais ça. Je prends contact avec la FEP. Il faut dire que sur Agen, il n'y a pas d'antenne. À ce moment-là, c'est une personne de Villeneuve-sur-Lot qui me répond et qui m'envoie tout un tas de documents. Nous sommes aux vacances de février 2016 et je repars avec mes documents et au fur et à mesure que je lis, je reconnais plein de personnes autour de moi, mais pas moi. Ça résonne beaucoup tout ce que je lis. Et puis, voilà, je repars avec ça. Je décide avec mon ex-mari à ce moment-là, nous décidons de refaire passer un bilan à Antoine pour vraiment savoir ce qui nous attend.
Donc, en fait. Antoine, c'était bien sûr votre petit garçon.
Exactement, exactement. Et donc, je rencontre une autre psychologue et là, le courant passe beaucoup mieux. D'abord parce que c'est une sophrologue dans les années 80 en Belgique, donc autant dire une sorcière. Et que l'anamnèse qu'elle fait avant de bilanter Antoine, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre nous. Elle fait remonter plein de choses. Et au fur et à mesure que je parle, elle sort des bouquins de sa bibliothèque. Et puis, elle me dit, bon, bah, maintenant, vous allez aller prendre un café pendant que je fais le bilan à Antoine. Et puis, voilà. Donc, je repars avec cette pile de livres. Je suis à Saint-Pierre-de-Clairac, dont le premier café pour prendre un café, c'est un petit peu loin. Et je me retrouve à Castelcuy dans une boulangerie. Je prends un livre au hasard de la pile. Je l'ouvre au hasard. Et je lis une phrase qui me fait m'effondrer, en fait. Et qui pourrait me faire m'effondrer là aussi. Mais... et du coup, je me dis, ah, waouh, en fait, ça parle de moi.
Et c'est quoi cette phrase ?
Alors, je ne saurais pas la redire parce que ça a tellement été violent pour moi que je ne l'ai pas imprimé.
Mais et c'est quel auteur ? Quel livre ?
Alors, le bouquin s'appelle, il y a une histoire aussi rigolote à propos de ça, parce que c'est Cécile Bost, l'auteur. Et en fait, lorsque je ramène les livres et que je vais récupérer mon fils, dans le réseau dans lequel je fais partie en ayant contacté la FEP, je reçois un mail qui m'invite à une journée sur l'hypersensibilité organisée par MENSA. MENSA, c'est une association qui s'occupe des très hauts potentiels, c'est-à-dire 0,5% de la population à peu près qui ont un QI au-dessus de 160 presque. Et du coup, je m'étais inscrite à cette journée sans savoir. C'était le lendemain, c'était le 2 avril 2016. Et je vais sur Bordeaux. Et en fait, Cécile Bost est dans la salle. Et je me retrouve avec tout un tas de conférenciers, auteurs, Ariel Ada, Monique de Kermadec. Alors, ces noms ne vont parler qu'à ceux qui connaissent le sujet, mais Fabrice Michaud, donc Cécile Bost. Et en fait, ça commence à 9h, ça se termine à 16h. Et de 9h à 16h, dans cet amphithéâtre qui regroupe à peu près 500 personnes, j'ai l'impression qu'on ne parle que de moi. Et je ressors de là en me disant « Waouh, j'ai pris un tsunami dans la gueule ». Du coup, c'est assez violent et je me suis rendu compte là, au cours de l'été, là, c'est assez récent, qu'en fait, je réussissais enfin à retenir le nom en entier du livre. Du coup, je vais pouvoir répondre à ta question. L'ouvrage de Cécile Bost s'appelle, depuis il a changé de nom, mais la première édition s'appelle « Différence et souffrance de l'adulte surdoué ». Je n'ai pas réussi à retenir ce nom jusqu'à il y a très peu de temps. Je disais, lorsqu'on m'interrogeait, je ne sais pas, ça s'appelle « Différence et je ne sais pas quoi de l'adulte surdoué ». Et en fait, j'ai réalisé que j'arrivais à retenir le nom parce que ce n'était plus une souffrance pour moi. Et tu vois, on parlait tout à l'heure, effectivement, du fait que ça pouvait être un cadeau de fonctionner comme ça. Quand on l'accepte et quand on sait ce que ça génère derrière, oui, ça peut être un cadeau. Mais quand on ne sait pas pourquoi on fonctionne comme ça. Moi, je dirais que c'est vraiment une grosse souffrance.
Ah oui. Alors, quel est le lien entre ce premier souvenir en tant qu'animatrice au Géo, ce souvenir du sourire un peu forcé et cet événement, ça c'est... Alors, est-ce qu'il y a un lien et...
Ah bah oui, je le vois très très fort, le lien. Tu vois, pourtant, je n'avais pas du tout pensé au lien qu'il pouvait y avoir, mais je le vois très fort parce que lorsqu'on fonctionne avec cette particularité, en termes psychologiques, on parle de faux self, c'est-à-dire des masques que l'on peut se mettre pour justement se fondre dans la masse de cette société qui ne correspond en rien à notre fonctionnement. Et donc, c'est extrêmement douloureux de vivre... en essayant de rentrer dans cette case. J'aime bien me dire, je ne peux pas rentrer dans le moule parce que je suis ni une tarte ni une quiche.
Oui, et, j'aime bien cette expression aussi.
Et c'est vraiment ça, en fait. Et plus je travaille sur ce sujet, et plus je me rends compte que dès petit, et puis ce qu'on vit là ne tend pas vers l'amélioration pour les fonctionnements comme ça, parce qu'on veut à tout prix faire rentrer un carré dans un rond. Ce n'est pas possible. Hein. Donc ça fait mal. Oui, ça fait très mal. Du coup, moi j'ai créé le cabinet d'accompagnement pour proposer des outils pour essayer de faire en sorte de rentrer dans une case parce qu'il le faut, même si j'entends déjà des gens dire bah non, on n'est pas obligé d'entrer dans des cases. Non, bien sûr, on n'est pas obligé. Mais pour cette société, voilà, il va falloir, en tout cas pour moi, il me semble que c'est important.
Pour vivre heureux, de pouvoir trouver sa place quelque part quand même.
Ouais. Alors, Jeanne-Sio Fachin, son livre phare, c'est trop intelligent pour être heureux. Donc, je ne sais pas si effectivement, quand on fonctionne comme ça, on peut être vraiment heureux. Mais est-ce que c'est une fin en soi? Je pense que ce qui est important, c'est de trouver des petits bonheurs tout au long de la journée et de faire en sorte d'être dans la gratitude de tout ce qu'on peut vivre au fil de la journée. Et c'est peut-être ça qui va tendre vers une vie heureuse.
Oui, tout à fait, oui. Alors, pour résumer pour nos auditeurs, tu as donc découvert il y a quelques années donc, que tu avais un enfant qui avait un haut potentiel et toi-même, tu t'es découverte à la suite de ça. Donc, c'est quelques années après que toi, tu t'es découverte aussi avec cette casquette, je ne sais pas comment on pourrait dire,
ce bonnet, pour Stéphanie Desbonnets. Mais... lorsque j'ai découvert que mon fils fonctionnait comme ça et que j'ai découvert surtout toutes les difficultés que ça pouvait engendrer, parce que la première psychologue m'avait dit « Bon, votre fils est au potentiel, bon courage. » Donc, je me suis dit « Je ne peux pas laisser mon enfant dans cette souffrance parce qu'en fait, il se tapait, il se griffait. » Souvent, les enfants comme ça, en fait, c'est la frustration que ça génère d'avoir un cerveau qui va très vite et de ne pas avoir les gestes qui suivent. En tout cas, pour les petits enfants, ça peut être ça. C'est-à-dire que mon fils a parlé pas très tôt. Il a parlé à 2 ans et demi, à peu près, on va dire. Mais il a parlé aussi bien que toi et moi, j'ai envie de dire, presque dès le départ. Il n'a jamais utilisé la troisième personne. Les enfants disent « Antoine, il veut un bonbon ». Lui, c'était « Je veux un bonbon ».
Ah oui, donc tout ce qui est babillage, les essais de langage qu'on retrouve chez les autres enfants.
C'est ça, chez lui, ça ne l'était pas. Alors, tous les enfants ne vont pas fonctionner comme ça, mais il va y en avoir qui vont marcher très tôt, mettre des dents très tôt, avoir la propreté très tôt, pardon, ou avoir l'ensemble de tout ça aussi. La petite fille que j'ai rencontrée mercredi, elle avait tout, en fait. Elle a marché très tôt, elle a parlé très tôt, elle a eu les dents très tôt, elle a été propre très tôt et tout de suite pour tout, la nuit, le jour. Ben, voilà, ça peut... Comment dire, faire la palette de tout, toutes les couleurs, quoi. Lorsque j'ai appris ça, je me suis dit, c'était important que j'accompagne mon petit garçon à faire en sorte que ça soit le moins difficile pour lui à vivre. Parce que moi, lorsque je le voyais se griffer ou se taper, c'était vraiment très violent pour moi de voir mon petit garçon réagir comme ça. Et je me suis formée à la sophrologie caïssédienne, sans savoir que ça allait bouleverser ma vie aussi, ce chemin-là. Et c'est au cours d'une sophronisation où je me suis vue au volant de mon camion. Et puis, il y avait plein de choses, en fait. Je pense que le chemin qui m'a amenée à accepter d'aller jusqu'à passer le bilan, pour moi, il s'est fait de manière très subtile, en fait. Je ne l'ai pas réalisé comme ça en me disant « Ok, je fonctionne comme ça aussi, il faut que je passe le bilan pour en être sûre. » Mais je pense que ça a été très subtil parce que ça me faisait très peur.
Eh oui, comme une pédagogie de la vie qui, petit à petit, t'a amené à découvrir quand tu étais prête, en fait.
C'est ça. Et puis, il y a encore ce côté, et si je ne rentre pas là-dedans? tu vois, je me disais, ok, je comprends pourquoi je ne rentre pas dans la case où tout le monde à peu près rentre. Mais du coup, si je ne rentre pas dans cette case aussi là, où est-ce que je vais me mettre en fait? Tu vois, mais ça va être quoi ma solution? Donc j'avais, voilà, j'avais une grande peur de ne pas être ça non plus, voilà. Donc ça a mis du temps pour moi puisque mon fils, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet en 2016 et que moi j'ai passé le bilan en avril 2016 et moi j'ai passé le bilan en octobre 2018. Voilà. Et c'était une sorte de challenge en fait. J'ai fait le semi-marathon de Toulouse la veille de passer mon bilan. Tu vois, il y avait un peu des challenges comme ça pour moi.
Alors nous allons faire une petite pause. Est-ce que tu as choisi un morceau de musique qui te touche?
Oui, alors j'ai choisi un morceau de Alex Hepburn qui s'appelle Reckless.
On l'écoute et on revient tout de suite après.
It's not easy for me, no, to belong here. I wanna be reckless, wanna destroy this. I don't wanna regret this like I've done before. I wanna be out there in the middle of nowhere, lies forever, like I was before, like I was before you came. I'm learning, yeah, to go against my nature. Feels like I'm a stranger to myself, and it's frightening, baby. I don't know where I'm heading, but wake me when I get there. It's not easy for me, you know, to belong here, to belong here. Like I was.
Vous êtes toujours dans l'émission Envie de sagesse et je suis en compagnie de Stéphanie Desbonnets. Stéphanie nous racontait son parcours, sa quête de connaissance d'elle-même à travers son enfant. Donc voilà, il y a son enfant qu'elle a découvert à haut potentiel et puis ensuite elle. Voilà, donc Stéphanie, tu vas peut-être nous parler, on va revenir sur l'événement qui a changé ta vie. Est-ce que tu pourrais nous en parler, cet événement ?
Eh bien, l'événement, donc, c'est la découverte du haut potentiel de mon fils qui m'a mis sur le chemin de cette caractéristique pour moi aussi. C'est en octobre 2018 que j'ai enfin passé le bilan auprès d'une psychologue à Toulouse. Voilà.
Oui, et tout à l'heure, tu me disais, Aurentaine, que lorsque tu as découvert, lorsque la psychologue t'a annoncé ça, ça a fait l'effet d'un tsunami.
Oui. Oui. Alors, le tsunami, c'était plutôt pendant la conférence Mensa. Lorsque la psychologue m'a dit, au vu des résultats, je peux donc vous dire que vous faites partie de ces 2 à 3% de la population qui présente un fonctionnement de haut potentiel, j'ai vraiment eu l'image d'une boîte de 1000 pièces d'un puzzle qu'on retournait sur la table et qui, à une vitesse absolument fulgurante, se mettait en place. Avec cette sensation d'être au-dessus de mon corps et de voir ma vie prendre son sens, en fait. Tu vois, et de me dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Et je me souviens que la psychologue m'a dit, vous savez, vous risquez d'avoir le second effet qui se coule en rentrant chez vous. N'hésitez surtout pas à revenir vers moi. Et si ça ne va pas, revenez. Et souvent, quand on fonctionne comme ça, on ne demande pas d'aide. Voilà, c'est parce qu'on va y arriver tout seul, on est fort. Et puis souvent, on passe notre vie à nous dire qu'on est fort et que ça va toujours. Moi, je fais partie de ces gens à qui on pose la question en disant « comment ça va ?» et que je dis « ouais, ça va pas trop, ah, mais si, ça va aller, toi, ça va toujours. » Bon, bah, alors on me pose pas la question. Et donc, je suis rentrée chez moi avec effectivement le second effet qui se coule et j'ai pas demandé d'aide.
Ah oui, parce qu'en fait, ça a été comme, j'ai l'impression... un soulagement de se dire, de te dire, ben voilà qui je suis, voilà pourquoi je fonctionne comme ça. Et dans un deuxième temps, une peur de ne pas savoir quoi faire avec.
Alors je sais pas.
Un sentiment de quoi alors ?
Ouais, c'est pas une peur de pas savoir quoi faire avec, mais c'est plutôt un. Je sais pas. C'est en tout cas ce qui m'animait à ce moment-là, c'était quel gâchis, tu vois. De me dire, mais c'est fou, quoi, parce que, en fait, mon père a été bilanté dans les années 60 et donc présente, je crois, lui, un très haut potentiel. C'est quelqu'un qui a toujours été en marge de la société, alors ça va mieux, là, il a réussi à trouver sa place, mais il a presque 75 ans. Mais j'ai le sentiment que sa vie, ça a toujours été quelqu'un en marge, quelqu'un de différent. Tu vois, dans ma famille, on dit toujours, oui, mais ton père, tu sais comment il est. Bah ouais, mais sauf que on n'est pas obligé de faire avec, tu vois, parce que j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a toujours été... mal compris et qui se comprenait pas lui-même d'ailleurs et du coup qui était en souffrance et qui faisait du mal autour de lui. En tout cas pour moi, notre relation était une vraie souffrance et donc pour moi c'était quel gâchis, parce que si j'avais su avant peut-être comment je fonctionnais, ça m'aurait évité bien des écueils. Alors je serais pas celle que je suis, très certainement. Je n'en veux à personne de pas avoir fait le nécessaire peut-être pour que je le découvre avant, mais la sensation à ce moment-là c'était ça, c'était quel gâchis.
Et tu avais quel âge à ce moment-là ?
Ben 45.
Ah oui, ah oui.
Voilà. Et du coup, quand tu fais le constat de quel gâchis de ma vie, tu sombres un peu. Et puis, ce fonctionnement-là, on peut être facilement assimilé à des bipolaires ou des borderline, tu vois, parce que les vagues émotionnelles sont telles que des tsunamis. Voilà. Ce n'est pas des vaguelettes, hein, c'est des grosses vagues, en fait. Quand ça va bien, ça va super bien. Quand ça va super mal. Et voilà, donc on peut souvent dire, mais t'es pas un peu bipolaire, toi, quand même ? Non, en fait, je suis pas bipolaire. C'est juste que toutes mes émotions sont exacerbées. Et que ouais, ça me fait, j'ai envie de dire, une putain de douleur, en fait. Tu vois ?
Donc, en fait, ce sont des émotions à fleur de peau. C'est une sensibilité à fleur de peau.
C'est ça, exactement.
Constamment, tout le temps.
Exactement.
Comme s'il n'y avait pas de filtre, en fait.
Et que pendant 44 ans, je me suis obligée à mettre des filtres pour que justement je montre pas que mes émotions elles étaient exacerbées. Et que pendant pas loin de 13 ans ou 14 ans, j'ai rencontré le papa de mes enfants, j'avais 27 ans. Et depuis l'âge de 14 ans que mes parents s'étaient séparés, je n'avais plus jamais pleuré devant quelqu'un. Je m'interdisais de pleurer devant quelqu'un. Donc je me cachais. Je pouvais passer 15 jours chez moi enfermée sans voir personne, sans répondre au téléphone, parce que c'était mon seul moyen de reprendre un peu les rênes de ma vie, tu vois, de laisser couler cette émotion-là. Mais je m'étais coupée, en tout cas, de ma tristesse. Je ne voulais pas que les gens la voient. Je me devais d'être forte.
Eh oui, eh oui.
Et maintenant, j'ai réouvert les vannes, hein, donc je peux pleurer. Là, peut-être que je me mettrai à pleurer. Ça va, c'est OK. Et comme je dis souvent aux personnes que je peux accompagner, je remercie chaque jour Pixar de nous avoir offert ce merveilleux cadeau de vice-versa pour nous faire prendre conscience qu'adulte comme enfant et comme être vivant, puisque le chien aussi a ses émotions, on est tous habités par nos émotions primaires. Et que celle qui régente un peu tout ça, c'est joie. Et effectivement, ce qui nous permet de vivre, voire parfois de survivre, parce que souvent, quand on fonctionne comme ça, on a l'impression de survivre, eh bien, c'est de se reconnecter à notre joie intérieure. Et ça passe pour moi par la reconnexion à notre enfant intérieur.
Oui, ah bah ça, c'est sûr que ça me parle bien. Et donc, c'est la recherche que tu as faite depuis toutes ces années, ces quelques années. C'est cette recherche-là qui t'a apaisée, qui t'a permis de bien vivre maintenant.
C'est ça.
Avec qui tu es.
C'est ça. Alors, en 2016, outre le fait qu'on découvre mon petit garçon au potentiel, et ma fille aussi derrière. Alors, on va pas faire dans le détail, ça serait très long, mais je peux juste faire une parenthèse et dire que pour les filles, ça se voit moins. On bilante plus de petits garçons que de petites filles. En revanche, on bilante plus d'adultes femmes que d'adultes hommes. Parce que les filles, on peut les apparenter à des caméléons. Tu vois, elles se fondent. Alors, elles vont avoir des résultats moyens pour pas trop se faire remarquer. Voilà, on va moins mettre l'accent sur les petites filles qui fonctionnent à haut potentiel. Et donc je perds le fil de ce que je voulais dire. Ça c'est souvent aussi, ah oui, l'autre événement. Donc on découvre que mon fils est au potentiel et en même temps mon couple va pas bien du tout, et donc on se sépare, et pour moi c'est un énorme échec, parce que je ne voulais pas ça dans ma vie. Il n'était pas question que je ne réussisse pas là où mes parents avaient échoué, et je n'imaginais pas que ça allait être un autre tsunami dans ma vie, tu vois ça. Et du coup, j'ai sombré très, 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 très bas. Je n'imaginais pas du tout. Et bah, il y avait plein de choses, hein, parce que ce tsunami, il a provoqué un raz-de-marée qui a tout embarqué. Hein, ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle, parce que j'ai tout arrêté. Ça faisait 9 ans que j'étais dans l'immobilier. J'étais négociatrice et j'adorais ce métier. Et j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté et je me suis dit, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis là, si tant est qu'on ait tous une mission? Quelle est la mienne? Et j'ai compris que la mienne, bon, peut-être qu'elle me changera dans quelques temps, mais c'est en tout cas d'apporter de l'apaisement et d'essayer d'apprivoiser. Enfin, je ne sais pas si c'est juste ce terme, mais ce qui est difficile quand on fonctionne comme ça, c'est justement nos émotions qui nous embarquent et qui nous rendent à fleur de peau, voilà, où tout peut faire mal. Et c'est d'essayer de faire part de mon expérience, de tout ce que j'ai pu récolté comme enseignement, puisque je me suis formée aussi à la méditation de pleine conscience. Je suis allée chez Jeanne Siofachin, essayer de comprendre ce qui se passait dans notre tête, ailleurs que dans la mienne. Et voilà, et d'offrir un peu mes outils aux personnes qui en auraient besoin.
Et donc, du coup, tu as eu cette idée de partir avec un petit camion. Alors, sur les routes de France.
C'est ça.
Que tu appelais ton association, ton entreprise, je ne sais pas, l'effet zébré.
C'est ça. En fait, il était question avant le confinement que je crée un lieu, la maison de l'hypersensibilité et de la douance ici sur Agen. J'avais acheté un local et puis le confinement est arrivé et ça a bouleversé plein de choses, hein, comme pour plein de gens. Et en fait, je me suis dit, OK, bah ça ne va pas se faire. Alors du coup, comment je peux transformer ça? Et est revenue en moi cette sophronisation où je m'étais vue au volant d'un camion qui se serait appelé le Happy Sofro Truck. Et je me suis dit, OK, c'est ça. Ce confinement, à moi, il me permet de me dire que l'important, c'est de se relier à l'autre et peut-être de revenir au service de proximité. Donc, j'avais à cœur de pouvoir aller proposer de l'aide dans les campagnes, dans les écoles de rurales, tu vois. Donc, j'ai créé mon cabinet, effectivement, qui s'appelle l'Effet Zébré, qui était un cabinet itinérant. Et en fait, depuis... Alors, la route, ce n'était pas du tout au programme, hein, de partir sur les routes de France. Ce n'était pas au programme, mais il s'est passé quelque chose... On ne va pas rentrer dans l'histoire de ce qu'on vit depuis 2 ans, mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire, je ne vis pas super bien depuis mars 2020, mes émotions. Je fais en sorte de les vivre au mieux. Et je suis très touchée par ce que l'on impose à vivre aux jeunes, ce que je dirais de 12 à 25 ans. Maintenant, on va réduire l'âge à 5 ans, mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez. Alors, je n'ai plus la télé depuis 6 ans, je n'écoute plus la radio. En tout cas, les grands médias mainstream, je n'écoute pas tout ça, parce que sinon, je pourrais aller me jeter dans la Garonne directe. J'ai l'impression qu'on ne parle pas suffisamment de cette génération qu'on est en train de sacrifier. L'âge du suicide a baissé à 8 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est extrêmement jeune, hein, des enfants qui se suicident à 8 ans.
Oui.
Et le mal-être considérable, l'engorgement dans les hôpitaux psychiatriques de ces jeunes qui ne savent que faire. Voilà. Et tout ça, moi, ça me bouleverse. Hein, et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire là? Alors, avec ma fille qui est adolescente aujourd'hui, évidemment, on a des avis divergents sur la situation et c'est normal, elle a 14 ans, elle a envie de vivre avec ses amis, elle a envie de vivre sa jeunesse. Donc, mais je me suis dit que c'est important pour moi que je laisse quelque chose, que je laisse ma trace de ça, avec mes ressentis, mon intuition, les fonctionnant à haut potentiel. Monique de Kermadec en parle un peu dans ses ouvrages. Il y a une part de spiritualité plus importante, peut-être ce qu'on peut appeler notre petite voix intérieure ou notre intuition, ou tu vois, je ne sais pas comment tu peux l'appeler, mais ce que je ressens me trompe rarement. Et effectivement, moi, j'ai plutôt un regard assez négatif sur ce qu'on est en train de vivre, même si je suis quelqu'un de très optimiste. Mais je me dis que ces jeunes-là, je ne peux pas les laisser comme ça. Donc, j'avais envie de laisser une trace de ça. Et de ne pas dire, bah oui, tu savais, maman, que ce n'était pas super ce qu'on est en train de vivre et tu n'as rien fait. Si, j'ai fait. J'ai fait, mais à la hauteur de ce que je peux faire.
Comme dirait Pierre Rabhi, la petite goutte.
Exactement, ma part de colibri.
Du colibri.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, j'ai contacté des gens qui sont importants pour moi. Saverio Tomasella, qui est un auteur, conférencier, psychanalyste spécialisé dans l'hypersensibilité, qui a écrit de nombreux ouvrages, et de romans et des essais sur le sujet. Je l'ai contacté pour savoir si je pouvais aller l'interviewer. J'ai contacté Ghislaine Duboc, qui est une thérapeute chamane. J'ai contacté Marie Mila, qui est une sonothérapeute. J'ai rencontré Jean-Christophe Dulot. Enfin, tout un tas de gens. Et je leur ai dit, voilà, moi, je viens avec mon cabinet. J'aimerais vous interviewer, faire un petit film, dans l'idée de faire un film derrière, sur comment vous traversez ce tunnel émotionnel depuis mars 2020. Voilà, donc je suis partie pendant 5 semaines, en 2 temps. Une première fois 3 semaines, une seconde fois 2 semaines. Et puis là, voilà.
J'allais dire d'où le parrainage par Julien Perron, qui a eu un petit peu la même démarche.
Exactement, oui. Julien, c'était le bonheur. C'est ça.
Alors, de cette expérience, donc tu es partie sur les routes de France, rencontrer ces personnes, et maintenant, tu me disais que la suite, c'était de faire un livre, de c'est réunir ça. Tous les témoignages.
Alors, je recherche d'ailleurs si quelqu'un entend et qui a envie de se prêter à cette expérience, parce que j'ai à peu près 25 heures de film, et que je ne peux pas balancer 25 heures, et puis qu'il faut faire un montage un peu interactif. Enfin, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas réalisatrice, donc si quelqu'un m'entend et qu'il a envie de se prêter à ça, génial. Mais sinon, comme je ne veux pas laisser toutes ces merveilleuses choses qui m'ont été livrées comme ça, à partir de janvier, je vais faire des lives le jeudi soir que je vais appeler les jeudis merci, 33 minutes avec. Donc, je vais faire des lives avec toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Et le lendemain, sur la page de l'Effet Zébré Facebook, je ferai une double page de présentation de la personne qui a répondu la veille sur Instagram. Il faut vivre avec son temps, avec les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est au mois de mai de sortir un livre relié de toutes ces rencontres. Voilà.
Ah oui, c'est un super projet. Bah, donc là, maintenant, il est lancé ce projet. Puis ouais. On espère que tu reviendras sur notre antenne pour le présenter.
Avec plaisir, avec grand plaisir.
Et on te remercie. En tout cas, je te remercie. J'espère que les auditeurs vont... Je pense qu'ils ont bien senti le cœur qu'il y avait dans cette émission.
Merci.
Et on te dit à très bientôt.
Merci à toi, Myriam. Merci.